à l'onde des mots, lecture libre, vivre livre. Nous avons ouvert nos livres pour les faire parler et nous donner l'envie de découvrir la quintessence des mots. Nous avons récolté des voix pour vous emporter dans le rêve, la réflexion, la méditation et l'envie d'en partager les échos. Restons avec Stéphane Olivier, écrivain et conteur qui prête sa voix à Chris Simon dans un extrait de son livre « Le baiser de la mouche ».
Nous flottons dans la lancha blanche qui frotte sa coque en polyester contre le ponton de bois mouillé. Il pleut. Le ressac habille l'eau de reflets gris et noirs. Les garçons de la lancha nous emballent de bâches bleues qu'ils déroulent du toit le long des fenêtres sans vitres. Une famille monte à bord. Le grand-père tient un chapeau de ranchero. Sa femme soulève une jupe aussi noire que l'eau qui nous assiège. Ils enjambent plusieurs bancs, s'assoient à côté d'une petite fille de 3 ans qui me dévisage. Sa tête ronde glisse sur l'épaule de son père. « Voy a Santa Cruz ?» J'approfondis mon espagnol. « Y tu ?» Sa mère lui donne une pomme. Elle la grignote timidement. « Voy a San Marco ?» Comme si elle essayait de l'éplucher avec ses 2 dents. Une mouche se pose sur le mouchoir écossais qui dépasse de la poche du grand-père et parcourt les lignes rouges et bleues qui s'y croisent. On attend le départ. La lancha est pleine à craquer, mais les gens du coin continuent de monter. 3 touristes américains grognent, le sac à dos entre les jambes, le dos courbé, la poitrine affalée. Elles s'impatientent après des heures de chicken bus sur les routes chaotiques. La mouche est en bout de ligne. Elle décolle, fait escale sur le huipil de la grand-mère. Un huipil rouge entièrement brodé de petits zigzags verts et bleus. La mouche titube entre les broderies géométriques, prisonnière d'un labyrinthe dont elle ne comprend plus les chemins multiples. La lancha démarre. Je demande à ma voisine de faire entrer un peu d'air. J'étouffe sous le plastique. Elle soulève un coin de la bâche. Le moteur ronfle, propulse notre embarcation à travers l'eau, sillant le lac en 2 parties distinctes. Prise d'un vertige multicolore, la mouche atterrit sur la pomme nue, la chair complètement cabossée par l'irrégularité des coups de dents. À dents de vas, la mouche ne répond pas. La petite fille lui tire la langue et abandonne la pomme dans la main de sa mère qui la croque à peine dedans. La mouche s'échappe in extremis et se pose sur l'épaule pâle de ma voisine assoupie. C'est une peau irritée qui sent la savonnette. La mouche s'aiguise les pattes, ça la détend. La lancha fend l'eau, coque pointée vers le ciel, bravant les vagues régulières que le vent soulève. Nos garçons encapuchonnés saluent les garçons encapuchonnés d'une autre lancha. La pluie marque les bâches de ses gouttes épaisses. Les passagers se maintiennent dans un silence concave qui fait place au ronflement langoureux du moteur qui les emmène. « À dónde vas ?» répète la petite fille inlassablement. « Paxanax !» crie le jeune couple d'Australiens que j'ai croisé hier à la Isla Verde. La lancha prend un virage à 45 degrés. Barbatage. Un garçon saute sur le ponton de bois, enroule la corde autour du pilier. L'Australien soulève la bâche, grimpe sur le ponton sous la pluie battante et saisit la main de sa compagne qui enjambe l'avant de la coque. Les garçons de la lancha renouent la bâche, le moteur ronfle sourdement. Le couple amoureux, cheveux dégoulinants, patine sur le sentier boueux. Nous repartons. La mouche se pose sur ma robe bleu marine à la hauteur de mon nombril. Elle somnole. Sans doute le manque d'oxygène. La mère balance le trognon de pomme au fond de la coque. Il roule dans le surplus d'eau que personne n'écope. La pluie nous isole du monde et nous connecte à la profondeur du lac de manière plus étroite encore. C'est comme de se retrouver soudain dans le ventre de sa mère, adulte et tout habillé, bercé dans le tout, dans le rien. « À dónde vas ?» interroge de nouveau la petite fille, assise sur les genoux maternels. J'aperçois mon village, à flanc de coteau, à travers la bâche qui bat, un coup contre la coque, un coup contre le mur de pluie. « Santa Cruz !» je crie. La lancha fait un grand écart, puis lentement tourne sur place et réaccélère en direction du ponton de bois. Je descends, mes sacs de tissu gorgés d'eau, mon corps enroulé d'une feuille de plastique orange que je me noue autour du cou à cause du vent qui vole tout sous son passage. Je monte les marches de pierre désajustées, tandis que le moteur amorce une marche arrière entraînant la lancha vers le large. « À dónde vas ?» Je cours dans mon bungalow de pierre, de bois et de tôle. Je secoue la mince feuille de plastique, l'attache au porte-manteau derrière la porte pour qu'elle s'égoutte. Par la fenêtre, Je contemple l'eau noire et grise qui danse et chante entre les volcans. J'enlève ma robe, enfile des vêtements secs. Clip, clap, clip, clop, disent les vagues contenues par les roches et les troncs de bambou. Flip, flap, flop. Les gouttes obstinées se faufilent entre les planches des pontons de bois dur. La mouche se cogne sur le carreau de la fenêtre, décompose les atomes des gouttes. Elle joue et transforme le CH2O en cristaux de pierre semi-précieuses et précieuses. Une brume légère s'étale avec grâce entre l'avocatier, le citronnier, l'eucalyptus et les deux papayers qui ne se séparent jamais. Je démarre mon ordinateur, ouvre Word. J'écris. Tout est humide et chaud. Je regarde l'araignée grise aux pattes rayées de blanc se hisser dans le coin du mur. Tout est vert et luxuriant. Tout est beau et bien vivant. La mouche se pose sur l'écran. Elle lit. Ré écrit. Vert, tout est chaud, humide et bien vivant, beau et luxuriant. J'efface tout, je recommence. La pluie scande sur la tôle, alourdit les avocats immatures, s'accumule sur les chemins gorgés d'eau. La mouche réécrit. Je suis noir et têtu, je pue et je ponds, seulement je vole et ma vue est kaléidoscopique. Je n'efface pas cette fois-ci, je lui réponds. Je suis rose et timide, je marche sur deux pattes et je pète. La mouche rit, elle se frotte les pattes arrière de contentement. Je m'appelle Chris et je suis poète. La mouche me regarde longtemps à cause de son prisme. Puis elle se déplace sur l'écran de gauche à droite. Je m'appelle Naomi. Elle s'envole d'un seul coup. Je la cherche dans la pièce. Je n'aime pas tellement que l'on lise par-dessus mon épaule. Comme une adolescente qui écrit son journal, j'ai peur d'être surprise en train de penser à quelque chose d'incorrect ou à quelqu'un d'oublié. On ne sait jamais où les mots vous mènent, ni pourquoi ils vous y mènent. Quand on atteint la destination, il est bien trop tard pour rebrousser chemin. J'hésite, je lorgne mon épaule, la mouche est là, sur son arrière-train comme un chien. Je n'ai pas l'habitude d'écrire en compagnie. On dit que le vrai voyageur n'a pas d'habitude. La mouche ne bouge pas d'une membrane. Elle attend. J'écris. Je suis le fil de mes mots, de mes émotions. J'oublie la mouche. Les vagues clapotent contre la roche, la pluie plus fine crépite. Elle s'infiltre dans l'esprit, le corps, les feuilles, les fruits. Cette mouche sur mon épaule, lit-elle mes phrases ou bien me souffle-t-elle les mots ? À donde vas ? Il faut répondre aux questions métaphysiques d'une petite fille. La mouche dessine une porte. Je l'ouvre. La pluie s'arrête. Les colibris vrombissent au-dessus des fleurs de bougainvillée. Je suis eau. Je suis liquide. Je coule à travers le temps, entre les volcans, la mouche sur mon épaule, les mots au bout de mes doigts. Elle m'embrasse dans le cou. Ça chatouille. Ça m'embarrasse. L'affection d'une mouche, ce n'est pas ce dont je rêvais enfant. Non, je rêvais de devenir quelqu'un plutôt que quelconque. Elle m'embrasse une deuxième fois. Cette fois, je rougis. J'ai chaud, c'en est trop. Je la balaye d'un revers de main. Et tant pis si je lui fais mal. Elle bzzzt contre les carreaux, irritée. Je l'ignore. Décide d'aller dîner. La soupe est servie. Les convives s'étonnent de ma bague, la trouvent originale. J'explique que ce n'est pas une bague, mais une mouche. On s'émerveille. La mouche me contredit. Elle reste immobile, comme un objet. Je la secoue. Elle tombe sur la table, cling, tel un insecte de farces et attrapes. Toutes les cuillères raclent le fond des bols en terre cuite. Un convive demande « Elle est en quoi, votre mouche ? En or, noircie ?» On s'émerveille une deuxième fois, on la touche, la met sous sa dent. Les convives rient, tandis qu'Alicia, la jolie servante de 10 ans, débarrasse les bols vides. La mouche est figée, pattes en l'air. Difficile à dire à cause de la patine noire. Une mouche, une fausse, oui. Peut-être même pas en or, s'énerve l'un des convives. Ils s'amusent tous de ma naïveté. Alicia disparaît avec une colonne de bol dont l'ombre danse sur les pierres du mur de la cuisine. Comme si une vraie mouche s'installerait sur mon majeur, comme un lalique. On ne la leur fait pas, à eux. Je ramasse ma mouche, la mets dans ma petite poche de chemise. Je suis triste, triste à me donner la mort. Le jour se lève au bord du ciel et du lac bleu lagune. Les feuilles des arbres et les pétales, abreuvoir de l'instant, ont recueilli l'eau de pluie. Face à moi, les volcans se dressent comme les seins d'une femme immense et couchée. Sur sa cuisse, j'ai ouvert les yeux. La mouche trottine sur mon oreille et murmure « Je veux tes mots, Les lire, les écouter se dire dans la pièce en respirant l'odeur des papayers, des citronniers, des eucalyptus. Sa voix est faible, un peu tremblante. « Je ne veux plus te quitter. » Elle descend sur mon épaule. « Bonjour, Chris. » Elle se frotte les kaléidoscopes de ses deux pattes avant, murmure de nouveau « Bonjour !» Et c'est le premier poème de la journée qui commence. « Bonjour !» La mouche est amoureuse. Elle boit mes mots, me dévore de ses yeux kaléidoscopiques qui décollent et recollent les morceaux de ma crédulité. Ce n'est pas tout à fait ce que j'avais imaginé, mais ce qu'on imagine n'est jamais aussi stupéfiant que la réalité. Elle se pose sur mon index que je porte à ma bouche. Elle attend. J'effleure d'un baiser délicat ses petites ornières noires. Elle trace avec ses pattes des arcs gothiques, plie et déplie ses ailes de gaze noire et transparente. Ma mouche. C'est sans doute improbable que nous nous marions, que nous ayons des enfants. Mais des mots, oui, nos mots, plein les doigts, les pattes, les oreilles, les yeux, la bouche. Des mots qui nous charment et qui nous aiment. Oui, des mots qui nous aiment. Bonjour, Naomi.
À l'onde des mots, lecture libre, vivre livre. Nous avons ouvert nos livres pour les faire parler et nous donner l'envie de découvrir la quintessence des mots. Nous avons récolté des voix pour vous emporter dans le rêve, la réflexion, la méditation et l'envie d'en partager les échos. À l'onde des mots, lecture libre, vivre livre. Nous avons ouvert nos livres pour les faire parler et nous donner l'envie de découvrir la quintessence des mots. Nous avons récolté des voix pour vous emporter dans le rêve, la réflexion, la méditation et l'envie d'en partager les échos. Stéphane Olivier, écrivain et conteur, prête sa voix à Philippe Delerme dans des extraits de son livre « Le trottoir au soleil ».
On en croise les samedis de printemps. Quand il fait beau, on dit « ils ont de la chance ». Mais c'est une bien plus grande chance de ne pas faire partie du mariage. Rien de pire que le bonheur obligatoire. Tout le monde est là, gourmé, empesé, en petits groupes souriants et gênés sur l'esplanade de la mairie ou le parvis de l'église. La conversation ne prend pas, car on attend les mariés, dans une focalisation si appuyée que leur apparition muselle un peu les commentaires enthousiastes. Après la cérémonie, il y a le soulagement de prendre les voitures. Au moins du mouvement, un bol d'air. Les hommes se précipitent dans un élan qui donne un semblant de souplesse au port amidonné de leur costume. « On vous emmène, Christiane ?» Les femmes posent une main sur leur chapeau. Dans l'habitacle refermé, on va enfin se lâcher à grands coups de klaxon. C'est loin ? Non, quelques kilomètres. Il y a un jardin au bord de l'eau. Ils y sont venus jeudi prendre des photos. Après, il y a les petites tables rondes. Et quand on a trouvé son carton, l'inquiétude d'avoir à estimer l'intensité de la contrainte à la lecture des cartons voisins. Ça, c'est quand on est amis seulement, ou dans la famille éloignée. Il va falloir alors lancer à tout moment des « c'est joli », des « c'est très bon », des « ils sont très beaux », en lançant les prolégomènes d'une conversation artificielle, si éprouvante quand on se dit qu'on ne reverra sans doute jamais ces gens-là, et qu'il faut pétiller d'un sentiment juste pour une fois. Mais c'est bien pire encore quand on est au cœur de la cible. Les mariés ne savent jamais si tout le monde est satisfait. « Qu'est-ce qu'elle veut, ta mère ? Elle pense qu'il faut qu'on se lève pour aller faire le tour des tables ?» Avant, après, il y a d'âpres luttes entre les familles à propos du Sancerre et du croustillant de foie gras. Le montage vidéo souvenir de l'école de commerce réjouit grandement le côté d'Hélène. Mais le côté de Christophe est plus pincé. On ne le voit presque pas. Après la pièce montée, la sono suscite des commentaires aigres doux. Mais c'est pratique quand on n'a plus rien à se dire. Dans le genre 4x4 et marathon, je m'éclate. Ils sont gratinés, ces deux-là. Ça se passe toujours comme ça. Il fait beau. C'est merveilleux, on n'est pas invité.
Welcome to Cool Herb FM.
Un livre à la couverture blanche, trouvé un jour dans une brocante. Titre « Les portes du silence ». Sous-titre « Directoire spirituel ». Auteur « Un moine ». Édition Ad Solem, Claude Martinguet, libraire à Genève. Deux moines ont donné le nihil obstat, un prêtre et un abbé l'imprimatur. La page liminaire est destinée à vous, âme bienheureuse, que le Seigneur attire au désert pour vous parler au cœur. Voulez-vous brûler devant sa face adorable comme une cire très pure? Voulez-vous, comme les chérubins, comme les séraphins, être irradié de sa clarté, n'être pour lui à votre tour que lumière et charité? Consentez à oublier le monde, l'univers et vous-même. De page en page, des titres de chapitres égrènent tous les renoncements nécessaires. Faites taire le bruit des souvenirs. Fermez la porte aux soucis. Évitez les discussions intérieures. La page de conclusion promet « La paix descendra en votre âme, le silence l'enveloppera. C'est si beau un cœur pur et solitaire, sous la regard de Dieu. Il n'a qu'un champ, celui de l'éternité. » J'en suis sûr à présent. Je suis le contraire d'une âme bienheureuse que le Seigneur attire au désert. Je vois bien l'extraordinaire sérénité que l'on peut gagner en suivant le chemin des portes du silence. Ne plus se soucier des autres ni de soi. Aux pires nuits d'insomnie, bien des préceptes de ce livre me semblent désirables. Mais je préfère tout au champ unique de l'éternité. Mes angoisses, mes affections, mes souvenirs, mes troubles, toutes mes contradictions, qui ne me font certes pas brûler comme une cire très pure, mais cette consommation extatique ne me tente guère. Je préfère brûler en vacillant au moindre souffle. Oublier, me souvenir, connaître le plaisir et la tristesse et le remords. Sentir que le bonheur est à la fois possible et impossible. Vivre cette éblouissante absence de certitude. Refuser toute sagesse trop longue. Être un homme et pas un séraphin. Jouer le bonheur contre la joie. Campo San Giacomo da Lorio. C'est là que j'aime écrire dans Venise. En plein mois d'août, il y a quelques touristes, mais c'est une vraie place italienne, avec son église modeste aux absides rondes. Sur les murs, le crépi rose tombe au fil des ans, laissant à nu des briques inégales. Des façades ocre ou rouges, volets verts sombres, des platanes, deux fontaines, et toujours une rumeur légère où domine le claquement des chaussures d'enfants qui coursent les pigeons. Juste en dessous, le babil tranquille des vieilles dames en fauteuil roulant, installées par leurs femmes de compagnie. Après la toilette, on ira sur la place. Depuis plus d'un an, la haute gouttière d'une abside retient prisonnier un ballon jaune. On le voit qui dépasse quand on lève la tête. Au-dessus, le ciel, immuablement bleu. À côté, une gargouille à tête de lion. Le ballon jaune me rappelle la petite balle rouge de Valoton dans ce tableau tant reproduit, où l'on voit un enfant fin 19e sous les ombrages d'un parc, un peu guindé sans doute, et comme prisonnier de son envie. La balle rouge si loin dans une tache de soleil. L'envol du ballon jaune du Campo San Giacomo da Lorio a dû succéder à un jeu beaucoup plus énergique. mais à présent qu'il est perdu, il a gagné la même perfection. Et je pense à mon enfance, à ces boules étranges d'une tonalité framboise un peu métallisée, comme posées dans le ciel, traversées par un fil électrique noir. On me disait qu'elles servaient à éviter aux aviateurs de descendre trop bas. J'étais sûr qu'une satisfaction incomparable viendrait de la possession d'une de ces sphères faussement prosaïques. Des ballons impossibles et des ballons perdus, un désir douloureux à satisfaire ou bien à consoler, un ballon jaune au bord de la gouttière, Campo San Giacomo d'Alorio.
Stéphane Olivier, écrivain et conteur, prête sa voix à Philippe Delerme dans des extraits de son livre « Traces ».
Il ne doit pas être loin. Mais il a momentanément abandonné son radeau de survie, caréné dans un renfoncement du mur une porte condamnée. Un duvet, gonflé çà et là de protubérances difficiles à identifier. Qu'est-ce qui reste l'essentiel quand on a tout perdu ? Quelques vêtements, un vieil appareil de radio, des bouquins. Oui, souvent on le voit lire et s'interrompre pour échanger quelques phrases avec des passants du quartier. Ça lui fait du bien de leur parler. Ça leur fait du bien de lui parler. Mais là, c'est son patrimoine qui parle à sa place. Voilà. Après une vie plus ou moins longuement normale, on peut se résumer à ça. Ce n'est pas si difficile de croiser son regard. Il est resté social dans le rapport humain, la syntaxe, parfois même prolixe. Mais contempler cette couette indécise quand il a disparu, c'est plus fort, presque insoutenable. Enfant, je lisais l'histoire de Napoléon. Je m'endormais en devenant un grognard au bivouac pendant la retraite de Russie. C'était bien d'imaginer la neige tout autour pour se calfeutrer au fond des draps. Presque honte aujourd'hui d'avoir rêvé de ce contraste. La coque abandonnée du SDF ne pourra rien contre le froid. Ne pourra rien contre sa froidure intérieure, sa mouillure indéfectible, la gerçure dure de ses pieds, de ses mains, de ses jours. Il ne s'en va jamais bien loin. Juste peut-être pour gagner l'impression de revenir vers quelque chose, un abri dérisoire à la forme de son corps. Un peu comme un autre lui-même qui ne peut plus le protéger, mais l'engloutir. Cette mort de l'affiche n'est pas une mort. L'affiche n'est presque jamais arrachée, défaite. Elle a si peu souvent le temps de s'estomper sous l'éclat du soleil, ou même d'être arrachée par les bourrasques de la pluie. Mais elle est recouverte. Le concert rock dépasse sous le festival de musique baroque, résiste encore un peu sous les tracts révolutionnaires collés à la sauvette. Qui est allé le 28 octobre à 18h à la mutualité ? Sûrement pas les mêmes qui se sont décidés à venir écouter les Narcissic Lovers à la maroquinerie le 10 novembre. Mais la plupart de ceux qui ont croisé le regard des affiches n'ont même pas imaginé qu'elles pourraient infléchir une soirée de leur vie. Pourtant, ils ont à peu près déchiffré les noms, les dates, les messages, surtout si le trajet leur était familier. Pourtant, cela leur a fait du bien que ces propositions soient jetées dans l'air de la ville. Ils étaient au-dessus, puisqu'ils pouvaient s'en dispenser. Toutes ces virtualités effacées d'un battement de paupières font la marche plus désinvolte, le chemin plus léger. On a une vie, puisqu'on n'obéit pas à ceux qui voudraient la remplir autrement. La supplication muette des affiches n'aborde même pas les terres du possible. Elle reste dans l'éventuel et caresse imperceptiblement l'amour-propre dans le bon sens du poil. Oui, vous faites partie des gens que tout cela pourrait séduire. Et c'est bien pour cela que vous ne serez pas tenté. Parfois, cependant, l'affiche se décolle. Elle devient plus triste et cet envers blanc froissé qui bat au vent d'automne parle de solitude, de silence. Juste en dessous, les dates périmées témoignent d'un temps lointain qu'on n'aura pas vécu. Tiens, je n'y étais pas. J'y serais bien allé. Au début, on ne le voit pas. Comment un feu rouge aurait-il quelque chose à dire ? Ce n'est pas même un objet, juste une fonction, interdiction. La symbolique est claire, rouge, c'est défendu. Que fait-on à un feu rouge ? On attend. On le toise du coin de l'œil avec impatience. Et puis un jour, pourquoi là, pourquoi à l'amble de la rue Comines et du boulevard des Filles du Calvaire, juste avant la montée vers Oberkampf ? Un jour, on ne le guette plus. On le regarde. C'est ainsi dans la ville. La plupart du temps, on est perdu dans un mélange entre des pensées vagues et la progression familière du trajet. Mais il faut des stases aussi, à intervalles, des signes du réel qui affleurent pour donner sens à cette portion de vie prise entre deux parenthèses. Ce ne serait pas vivre si un trajet n'était qu'un trajet. En fait, on se force presque inconsciemment à en faire autre chose, à devenir ça et là ce qu'on voit. Mais là, on n'en est pas très sûr. Juste au moment où l'on se disait « Mais ce n'est pas un rond rouge, c'est un cœur », il passe au vert. Alors on y prête attention désormais. La deuxième fois, on sait, on n'avait pas rêvé. Rue Comines, mais pas seulement. Quelqu'un a inventé d'aller poser un cache découpé en forme de cœur tout en haut des feux, sur le rouge. Comment fait-il, fait-elle ? À quelle heure ? Au prix de quelle gymnastique ? Comment cela lui est-il venu ? On ne le saura pas. Mais cela fait du bien. Un bien très chaud, cette rébellion pacifique. Au prix d'un exploit solitaire, parfaitement anonyme, quelqu'un a décidé de jouer les illusionnistes transparents. C'est si léger, si généreux et si gratuit, cette part d'humanité souriante et frondeuse. C'est mieux que Robin des Bois en forêt de Sherwood. Pendant que certains s'interrogent sur les plus-values, d'autres escaladent les feux rouges. On prend l'avion comme on prend le train. Presque comme on prend le bus ou le métro. Oui, n'empêche. Quand on lève les yeux et qu'on n'aperçoit rien tout en haut du ciel qu'un long panache blanc, l'avion reprend l'altitude. Ce sillage fourré, doré par le soleil, c'est l'avion vrai, miraculeux, l'avion d'enfance. Le ciel n'en est pas rapproché, banalisé. On peut distinguer, si on le cherche vraiment, le petit triangle à l'avant. Et c'est étrange de penser que cette forme minuscule est à l'origine de la branche neigeuse qui treillage l'espace. Quant à imaginer des hommes installés dans ce jouet, non. Pas même l'idée d'un trajet, d'une destination. La bande molle du coton avance, mais ce n'est pas l'avant qui fascine, plutôt le lent délitement de la traîne. À l'arrière, la fumée de la combustion commence à moutonner, à se dissoudre. Diluée dans le ciel, elle en change la texture, l'adoucit. Les voyageurs ne voient rien de cette métamorphose. Leur désir de partir se consume au moment même où il s'accomplit. Leur vitesse devient une lenteur floconneuse, leur progression confine à l'immobilité. Rien de plus apaisant que l'idée de ce vrombissement insupportable muet en parfait silence. Que ce désir de gagner du temps marié à la volupté d'une imperceptible avancée. Des tonnes d'acier, des moteurs géants, du kérosène, des fuseaux horaires avalés. Mais si l'on reste sur un banc, si l'on regarde en haut, si l'on contemple là au lieu de projeter loin, rien qu'un nuage d'avion, si peu pressé de s'effilocher en particules blanches.
Vous écoutez Couleur FM.
À l'onde des mots, lecture libre. Vivre livre. Nous avons ouvert nos livres pour les faire parler et nous donner l'envie de découvrir la quintessence des mots. Nous avons récolté des voix pour vous emporter dans le rêve, la réflexion, la méditation et l'envie d'en partager les échos. Stéphane Olivier, écrivain et conteur, prête sa voix à Amélie Nothomb dans un extrait de son livre « Métaphysique des tubes ».
Au commencement, il n'y avait rien. Et ce rien n'était ni vide, ni vague. Il n'appelait rien d'autre que lui-même. Et Dieu vit que cela était bon. Pour rien au monde, il n'eût créé quoi que ce fût. Le rien faisait mieux que lui convenir, il le comblait. Dieu avait les yeux perpétuellement ouverts et fixes. S'ils avaient été fermés, cela n'eût rien changé. Il n'y avait rien à voir et Dieu ne regardait rien. Il était plein et dense comme un œuf dur, dont il avait aussi la rondeur et l'immobilité. Dieu était l'absolue satisfaction. Il ne voulait rien, n'attendait rien, ne percevait rien, ne refusait rien et ne s'intéressait à rien. La vie était à ce point plénitude qu'elle n'était pas la vie. Dieu ne vivait pas, il existait. Son existence n'avait pas eu pour lui de début perceptible. Certains grands livres ont des premières phrases si peu tapageuses qu'on les oublie aussitôt et qu'on a l'impression d'être installé dans cette lecture depuis l'aube des temps. Semblablement, il était impossible de remarquer le moment où Dieu avait commencé à exister. C'était comme s'il avait existé depuis toujours. Dieu n'avait pas de langage et il n'avait donc pas de pensée. Il était satiété et éternité. Et tout ceci prouvait au plus haut point que Dieu était Dieu. Et cette évidence n'avait aucune importance car Dieu se fichait éperdument d'être Dieu. Les yeux des êtres vivants possèdent la plus étonnante des propriétés, le regard. Il n'y a pas plus singulier. On ne dit pas des oreilles des créatures qu'elles ont un écoutard, ni de leurs narines qu'elles ont un centard ou un reniflard. Qu'est-ce que le regard ? C'est inexprimable. Aucun mot ne peut approcher son essence étrange. Et pourtant, le regard existe. Il y a même peu de réalité qui existe à ce point. Quelle est la différence entre les yeux qui ont un regard et les yeux qui n'en ont pas? Cette différence a un nom. C'est la vie. La vie commence là où commence le regard. Dieu n'avait pas de regard. Les seules occupations de Dieu étaient la déglutition, la digestion et, conséquence directe, l'excrétion. Ces activités végétatives passaient par le corps de Dieu sans qu'il s'en aperçoive. La nourriture, toujours la même, n'était pas assez excitante pour qu'il la remarque. Le statut de la boisson n'était pas différent. Dieu ouvrait tous les orifices nécessaires pour que les aliments solides et liquides le traversent. C'est pourquoi, à ce stade de son développement, nous appellerons Dieu le tube. Il y a une métaphysique des tubes. Slavomir Vrozek a écrit sur les tuyaux des propos dont on ne sait s'ils sont confondants de profondeur ou superbement désopilants. Peut-être sont-ils tout cela à la fois. Les tubes sont de singuliers mélanges de plein et de vide, de la matière creuse, une membrane d'existence protégeant un faisceau d'inexistence. Le tuyau est la version flexible du tube. Cette mollesse ne le rend pas moins énigmatique. Dieu avait la souplesse du tuyau, mais demeurait rigide et inerte, confirmant ainsi sa nature de tube. Il connaissait la sérénité absolue du cylindre. Il filtrait l'univers et ne retenait rien. Les parents du tube étaient inquiets. Ils convoquèrent des médecins pour qu'ils se penchent sur ce cas de ce segment de matière qui ne semblait pas vivre. Les docteurs le manipulèrent, lui donnèrent des tapes sur certaines articulations pour voir s'il avait des mécanismes réflexes et constatèrent qu'il n'en avait pas. Les yeux du tube ne oscillèrent pas quand les praticiens les examinèrent avec une lampe. Cet enfant ne pleure jamais, ne bouge jamais. Aucun son ne sort de sa bouche, dirent les parents. Les médecins diagnostiquèrent une apathie pathologique sans se rendre compte qu'il y avait là une contradiction dans les termes. Votre enfant est un légume. C'est très préoccupant. Les parents furent soulagés par ce qu'ils prirent pour une bonne nouvelle. Un légume, c'était de la vie. Il faut l'hospitaliser, décrétèrent les docteurs. Les parents ignorèrent cette injonction. Ils avaient déjà deux enfants qui appartenaient à la race humaine. Ils ne trouvaient pas inacceptable d'avoir en surplus de la progéniture végétale. Ils en étaient même presque attendris. Ils l'appelèrent gentiment la plante. En quoi tous se trompaient ? Car les plantes, légumes compris, pour avoir une vie imperceptible à l'œil humain, n'en ont pas moins une vie. Elles frémissent à l'approche de l'orage, pleurent d'allégresse au lever du jour, se blindent de mépris lorsqu'on les agresse, et se livrent à la danse des sept voiles quand la saison est au pollen. Elles ont un regard, c'est hors de doute, même si personne ne sait où sont leurs pupilles. Le tube, lui, était passivité pure et simple. Rien ne l'affectait. Ni les changements du climat, ni la tombée de la nuit, ni les 100 petites émeutes du quotidien, ni les grands mystères indicibles du silence. Les tremblements de terre hebdomadaires du Kansai, qui faisaient pleurer d'angoisse ses deux aînés, n'avaient aucune emprise sur lui. L'échelle de Richter, c'était bon pour les autres. Un soir, un séisme de 5,6 ébranla la montagne où trônait la maison, des plaques de plafond s'effondrèrent sur le berceau du tube. Quand on le dégagea, il était l'indifférence même. Ses yeux fixés sans les voir, ses manants venus le déranger sous les décombres où il était bien au chaud. Les parents s'amusaient du flegme de leur plante et décidèrent de la mettre à l'épreuve. Ils cesseraient de lui donner à boire et à manger jusqu'à ce qu'elle réclame. Ainsi, elle finirait bien par être forcée de réagir. Tel fut pris qui crurent prendre. Le tube accepta l'inanition comme il acceptait tout, sans l'ombre d'une désapprobation ou d'un assentiment. Manger ou ne pas manger, boire ou ne pas boire, cela lui était égal. Être ou ne pas être, telle n'était pas sa question. Au terme du troisième jour, les parents effarés l'examinèrent. Il avait un peu maigri et ses lèvres entrouvertes étaient desséchées. Mais il n'avait pas l'air de se porter plus mal. Ils lui administrèrent un biberon d'eau sucrée qui l'engloutit sans passion. « Cet enfant se serait laissé mourir sans se plaindre, » dit la mère horrifiée. « N'en parlons pas au médecin, » dit le père. Il nous trouverait sadiques. De fait, les parents n'étaient pas sadiques, simplement épouvantés de constater que leur rejeton était dépourvu d'instinct de survie. Les effleura l'idée que leur bébé n'était pas une plante, mais un tube. Ils rejetèrent aussitôt cette pensée insoutenable. Il était dans la nature des parents d'être insouciants, et ils oublièrent l'épisode du jeûne. Ils avaient trois enfants, un garçon, une fille et un légume. Cette diversité leur plaisait d'autant plus que les deux aînés ne cessaient de courir, de sauter, de crier, de se disputer et d'inventer de nouvelles bêtises. Il fallait toujours être derrière eux pour les surveiller. Avec leur dernier, au moins, ils n'avaient pas ce genre de soucis. On pouvait le laisser des journées entières sans baby-sitter. On le retrouvait le soir dans une position identique au matin. On changeait son linge, on le nourrissait, c'était fini. Un poisson rouge dans un aquarium leur eût donné plus de tracas. En outre, n'était son absence de regard, le tube était d'apparence normale. C'était un beau bébé, calme, qu'on pouvait montrer aux invités sans rougir. Les autres parents étaient même jaloux. En vérité, Dieu était l'incarnation de la force d'inertie, la plus forte des forces. La plus paradoxale des forces aussi. Quoi de plus bizarre que cet implacable pouvoir qui émane de ce qui ne bouge pas? La force d'inertie, c'est la puissance du larvaire. Quand un peuple refuse un progrès facile à mettre en œuvre, quand un véhicule poussé par 10 hommes reste sur place, quand un enfant s'avachit devant la télévision pendant des heures, quand une idée dont on a prouvé l'inanité continue à nuire, on découvre, médusé, l'effroyable emprise de l'immobile. Tel est le pouvoir du tube. Il ne pleurait jamais. Même au moment de sa naissance, il n'avait émis aucune plainte, ni aucun son. Sans doute se trouvait-il le monde ni bouleversant, ni touchant. Au commencement, la mère avait essayé de lui donner le sein. Aucune lueur ne s'était éveillée dans l'œil du bébé à la vue de la mamelle nourricière. Il resta nez à nez avec cette dernière sans en rien faire. Vexée, la mère lui glissa le téton dans la bouche. Ce fut à peine si Dieu le suça. La mère décida alors de ne pas l'allaiter. Elle avait raison. Le biberon correspondait mieux à sa nature de tube, qui se reconnaissait dans ce récipient cylindrique quand la rotondité mammaire ne lui inspirait aucun lien de parenté. Ainsi, la mère le biberonnait plusieurs fois par jour, sans savoir qu'elle assurait de la sorte la connexion entre deux tubes. L'alimentation divine relevait de la plomberie.
À l'onde des mots, lecture libre, vivre livre. Nous avons ouvert nos livres pour les faire parler et nous donner l'envie de découvrir la quintessence des mots. Nous avons récolté des voix pour vous emporter dans le rêve, la réflexion, la méditation et l'envie d'en partager les échos. Stéphane Olivier, écrivain et conteur, prête sa voix à André Chédid dans l'extrait « L'œuf » de son livre « La femme en rouge et autres nouvelles ».
Blesse revint de la cuisine, portant avec solennité le plateau verni recouvert d'un apéron orange. Une serviette pliée en triangle, ainsi qu'une petite cuillère, une salière, un poivrier, tous en argent, était posée sur le côté. Au centre, l'assiette blanche, avec ses quelques mouillettes beurrées, supportait un coquetier bleu nuit, d'où s'élevait un œuf. Un bel œuf, un très bel œuf, ultra frais, miré par l'apprenti crémier à la demande du client, un œuf auquel sa coquille, légèrement bistrée, donnait un air agreste. Blesse, l'ayant maintenu dans l'eau frémissante durant les 3 minutes réglementaires d'un sablier, s'était surpris à en imaginer les mutations internes. La glaire prenant blancheur et consistance, l'expansion du jaune vers sa nouvelle fluidité, le germe réduit à l'impuissance. Blesse s'approcha de la table de couture de sa femme, placée devant la fenêtre entrouverte. Celle-ci donne sur une courette où se dresse un marronnier. Maria, partie en toute hâte, s'absenterait pour 48 heures. C'était samedi. Blaise était seul, serait seul, seul. Ce tête-à-tête avec lui-même, avec l'arbre, avec l'œuf, le réjouissait. Il posa le plateau, s'assit sur le tabouret, fixa ses pieds à la barre. Le dos redressé, il déplia la serviette et, la lissant sur ses genoux, caressa avec délice l'étoffe au grain serré. Il avait renoncé ce matin au linge en papier, qui vous reste extérieur et dont on se débarrasse très vite après usage. Saisi par l'explosion des bourgeons, l'arbre portait haut ses branches. Blesse le contempla longuement. Il prolongeait une sorte de trêve, faisant durer les pauses. Il s'offrait une fête intime, qui prenait peu à peu l'allure d'une cérémonie. L'appartement désert ne laissait place qu'au silence. En y prêtant attention, Blesse aurait pu entendre uniquement le tic-tac du réveil matin posé sur un coin de la bibliothèque. C'était fin mars. Entre coups de vent et clémence, le temps hésitait à se définir. Soudain, une ondée grise brouilla l'arbre. Blesse se leva, tira le voilage. En les colorant d'un jaune uniforme et cuivré, le tissu diaphane aiguérait les variations du dehors. Le téléphone carillonna. Blesse fronça les sourcils en direction de l'appareil. Puis, haussant les épaules, avant que le bruit ne s'étouffe, il se concentra sur l'œuf. Sur le point d'en craqueler le gros bout du revers de sa cuillère, il quitta soudain son siège, se précipita dans la cuisine, ouvrit l'un des tiroirs et en ramena un couteau. L'image de la vieille Anglaise au regard délavé flottait dans la chambre. C'était loin, au mois d'août. Blaise n'était encore qu'un petit garçon sagement assis dans une salle à manger d'hôtel. Une mer éteinte, des sables blafards, un ciel incolore traversaient les vitres. Chaque matin, le couteau bien à plat dans sa main fanée, l'Anglaise tranchait le sommet de l'œuf, sans faillir, d'un coup sec. Blaise chercha à l'imiter. Il essaya, une, deux fois, mais ne parvenant qu'à blesser l'œuf sans le décapiter, il renonça très vite à ce manège. Durant quelques instants, il caressa la mince cicatrice. Puis, enveloppant de sa paume la coquille calcaire et poreuse, il en ressentit toute la tiédeur et la douce rotondité. La sonnerie du téléphone rompit de nouveau le silence. Ne cherchant pas à se souvenir des raisons de son absence, Blaise en voulut à Maria d'être partie. C'était toujours elle qui soulevait l'écouteur dès les premières vibrations, qui filtrait les messages, qui veillait sur sa tranquillité. Mais le calme ne tarda pas à revenir. Blaise se délecta une fois de plus de sa retraite et se prépara à entamer l'œuf. Du bout de son index, il détacha un fragment de la coquille, dénudant la paroi transparente qui protège et maintient tout le dedans. Il se plut ensuite à écailler la partie supérieure de l'œuf en évitant de trouer cette membrane protectrice. Tassant les minuscules débris dans un coin de son assiette, il les écrasa avec le pouce pour les réduire en poussière. Autour de l'arbre, le temps s'éclaircissait ou se rembrunissait sans l'atteindre. Blaise s'émut à la pensée de ses revêtements successifs. Coquille, membrane, imperceptible chambre à air, matière albumineuse, substance jaune qui sauvegarde et entretienne l'embryon. Toujours sans y toucher, il chemina dans l'œuf, plongea jusqu'à son germe. Là, Blaise s'émerveilla de ce bond, secret et incommensurable, de ce sursaut qui mène de matière à vie et d'inertie à éclosion. Le téléphone sonna. Perdu dans ses réflexions, il l'entendit à peine. Il restait à déguster l'œuf avant que celui-ci ne se refroidisse. Si Maria était ici, cette célébration n'aurait pas lieu. Elle était gloutonne, expéditive, Maria. Fonçant sur les gens et les choses, en fille du Sud effervescente et passionnée. Il l'imaginait avec des centaines de bras, des dizaines de poitrines, pressant contre elle ses enfants, ses petits-enfants, tous les enfants du monde, les enduisant de baisers humides. Serrant la vie à bras-le-corps ou la rejetant avec des cris d'entrailles. Descendant d'une lignée d'ancêtres ponctuels et rembrunis, au début ce fut cette Maria-là qui avait tellement plu à Blaise. C'était loin, le début. Blaise goûta l'œuf. Sa saveur mêlée à quelques grains de sel, à une pincée de poivre, le ravit. La vue du voilage jaune, gonflé par une brise légère qui dorait la ténébreuse ondée, multiplia son plaisir. Il se sentit porté par une plaine liquide, étale, qui montait des tréfonds. La sonnerie perfora sa quiétude. Il en éprouva une véritable commotion et repoussa son plateau. Les mâchoires serrées, il s'indigna de l'insistance de cet intrus à l'autre bout du fil et faillit saisir l'écouteur pour lui dire son fait. Non, il ne broncherait pas. Il ne serait pas l'esclave de quelques coups de sonnette. Non, il ne se laisserait pas inquiéter par ces appels répétés, intempestifs, ni provoqué par cette agitation dans laquelle il baignait toute la semaine. Rassemblant alibis et angoisses qui poussent vers son récepteur comme si on l'attendait que ce signe pour l'interrompre, se dissiper. Le téléphone a vite fait, si l'on y prend garde, de vous piéger. Défiant le vacarme, Blaise souleva la cuillère jusqu'à ses lèvres. L'appétit n'y était plus. Dans la pièce, les couches d'air avaient perdu de leur fluidité et lui collaient à la peau. Enfin, le bruit cessa. Il fallut quelques secondes pour que cesse le cahotement, pour que l'atmosphère se stabilise et que la respiration se détende. Par miracle, le temps s'allongea de nouveau. Devant Blaise s'étendait le cortège des heures. Une nuit, puis un autre matin, et encore une enfilade de minutes sans objet. Son plaisir reflua. Il parvint graduellement à la moitié de l'œuf. La sonnerie atteignit cette fois une telle stridence que Blaise sentit sa tête voler en éclats. Il bondit de son siège, son coude heurta, puis culbuta le plateau. L'œuf s'écrasa sur le sol, maculant sérieusement la moquette blanche. Dominé par l'obsédant carillon, Blaise contempla le désastre. S'arrachant enfin de sa place, il se dirigea vers le placard de l'entrée pour trouver un détachant. La quantité des produits le découragea. Il referma le battant, revint auprès de l'œuf. Il n'en restait que des fragments, baignant laidement dans des humeurs jaunâtres. Tant pis. Blaise laisserait les choses en l'état. À son retour, Maria s'en arrangerait. La sonnerie harcelait toujours. Il ne restait plus à Blaise qu'à y répondre. C'était Maria au bout du fil. De sa voix ardente, essoufflée, dont elle tempérait l'inquiétude, elle lui annonça que Julie venait de donner naissance à une belle petite fille. « Elle te ressemble, Blaise. Tu viens, dis, tu viens !» Une brise têtue avait repoussé le voilage. Par la brèche, on apercevait l'arbre, debout dans l'éclaircie. Dans les gouttelettes suspendues aux feuilles, le soleil se multipliait.
Couleur FM 97.1.
À l'onde des mots, lecture libre, vivre livre. Nous avons ouvert nos livres pour les faire parler et nous donner l'envie de découvrir la quintessence des mots. Nous avons récolté des voix pour vous emporter dans le rêve, la réflexion, la méditation et l'envie d'en partager les échos. Stéphane Olivier, écrivain et conteur, prête sa voix à Dany Laferrière dans un extrait de son livre « Chronique de la dérive 12 ».
Je quitte une dictature tropicale en folie, encore vaguement puceau, quand j'arrive à Montréal en plein été 76. Je regarde le ciel, en pensant qu'il y a quelques minutes, j'étais là-haut, parmi les étoiles. La première fois. Sur tous les écrans de l'aéroport, et même du monde, la petite gymnaste, aux grands yeux noirs effrayés et aux longs bras si frêles, qui danse, vole, et n'ouvre les yeux et les bras qu'au moment où ses pieds touchent le sol. Du premier mouvement jusqu'au moment où elle s'arrête, d'un geste net et précis. Le corps arqué. Nadia Comaneci dort. Voilà l'explication de sa note parfaite, 10, la première de l'histoire des Jeux Olympiques. Un couple en train de s'embrasser. Un baiser interminable. La fille est en mini-jupe rouge. Je ralentis le pas. Le couple se défait. La fille regarde marcher le jeune homme un long moment, jusqu'à ce qu'il se perde dans la foule des voyageurs. Tête baissée, elle retourne alors à sa voiture. On traverse un quartier très animé quand cet homme, avec un masque de renard, s'est mis à tambouriner sur le capot du taxi, pour ensuite s'allonger sur le pare-brise. Le chauffeur ne parvient plus à voir la route. Le renard a sauté par terre quand la voiture a tourné dans cette rue calme et ombragée. Sur un balcon fleuri, quelques fêtards en train de converser et de boire. Des gens s'embrassent en pleine rue sans se soucier des voitures qui slalom entre les couples. Le chauffeur de taxi ouvre la radio. Une voix haut perchée annonce la présence en ville de rockstars, de mannequins et autres dieux du stade. Il éteint le poste en murmurant « C'est Babylone ». Un homme complètement nu courant sur le trottoir. Les policiers font semblant de ne rien voir. La foule applaudit. « Sodome !» dit le chauffeur. J'avais remarqué une Bible verte sur le siège avant. On s'éloigne de la fête en roulant vers le nord. Je ferme les yeux un bref instant pour être avec moi-même. des adolescents jouant au hockey dans le parking violemment éclairé d'un supermarché. Un homme à sa fenêtre, avec un gros ventre blanc et des bras velus, gueule son besoin de sommeil. « C'est toujours ainsi en été, » me glisse le chauffeur, « quand le jour refuse de céder le pas à la nuit. » Au moment de payer, le chauffeur m'a dit de garder mon argent, que je le paierai la prochaine fois qu'on se croisera. Malgré cette Bible qu'il caresse souvent de sa paume calleuse, je crois reconnaître l'Egba, le seul dieu du panthéon vaudou autorisé à m'ouvrir la barrière qui débouche sur un monde nouveau. Le concierge me précède dans l'escalier sombre qui sent la pisse et le détergent. Il ouvre la porte et me donne la clé avant de redescendre. J'écoute ses pas lourds jusqu'au dernier bruit sourd. Debout au milieu de la chambre, la valise à mes pieds. Ce silence me dit que j'étais enfin arrivé à destination. Un lit étroit sous la fenêtre où je m'étends tout habillé. Un réfrigérateur qui tressaute à intervalles réguliers. Le sommeil finit par m'emporter sous l'œil rond de la lune. Je me réveille incapable de respirer au milieu de la nuit. Dans ce rêve où je me sens un intrus, un homme au rire sardonique m'oblige à avaler un verre rempli de terre ocre. La pluie est arrivée juste avant l'aube, et mon angoisse s'est envolée à tire-d'aile vers le ciel si neuf d'un pays inconnu. La ville colorée que j'ai traversée la nuit dernière ne ressemble pas du tout à celle que je découvre en ce matin gris. Qui sont tous ces gens qui attendent en silence l'autobus au coin de la rue ? Le jeune homme à barbichette derrière moi me souffle que c'est la classe ouvrière. On m'en a tellement parlé que je suis tout étonné de la voir de si près. Quand j'étais petit, je croyais que chaque pays avait ses propres couleurs, que le ciel ailleurs était jaune, la mer rouge et les arbres mauves. Je ne suis pas déçu, mais perplexe du fait qu'on soit obligé de se lever si tôt pour simplement gagner sa vie. Je pensais que la pauvreté était une des conséquences de la dictature, et qu'ici, on était passé à une autre étape. Le jeune homme à barbichette me glisse dans la main le petit livre rouge de Mao. Sans même me retourner, je lui ai fait comprendre qu'il me faut un peu de temps pour souffler et voir ce qui se passe autour de moi. En moins de 24 heures, j'ai été réclamé par deux religions et un demi-dieu. La Bible, l'Egba et la Mao. Pour le moment, je ne pense qu'à un meilleur endroit pour dormir et un repas chaud. D'une certaine façon, ce pays ressemble au mien. Il y a des gens, des arbres, un ciel, de la musique, des filles, de l'alcool. Mais quelque part, j'ai le sentiment que c'est totalement différent sur des points très précis. L'amour, la mort, la maladie. La colère, la solitude, le rêve ou la jouissance. Mais tout ça n'est qu'une intuition. Je ne suis pas un touriste de passage qui vient voir comment va le monde, comment vont les autres et ce qu'ils font sur la planète. Je suis ici pour rester, que j'aime ça ou pas. La ville est jolie, et les filles sont belles, on dirait une chanson d'été. Les choses semblent bien aller, mais pour combien de temps encore ? En attendant de connaître mon sort, je navigue à vue. Je me dirige vers l'ouest, jusqu'à franchir la rue au double nom, rue Saint-Laurent, Saint-Laurent Street. La ville coupée en deux langues, si proche qu'elle s'oppose comme un baiser interrompu. Pire que le mur, c'est son absence. Anglais et Français se croisent sans se voir dans cette métropole où un chat doit savoir japper s'il veut survivre. D'un côté de la ville, l'ancien maître, de l'autre côté, l'ancien porteur d'eau. Plus bas, le nouvel immigré. Je suis assis sur un banc du parc avec les pigeons autour de ma tête et le petit lac au bout de mes chaussures. Combien de temps faut-il pour oublier mes amis laissés à Port-au-Prince ? Il me suffit de fermer les yeux pour me croire encore là-bas. Le bruit des voitures est partout le même.
Et voici des extraits de Bernard Friot.
Je suis entré dans le salon. Ma mère lisait un magazine. Elle n'a pas levé les yeux. Elle ne m'a pas regardé. Je me suis dit, je compte jusqu'à 20. Si à 20, elle ne m'a pas adressé la parole, je fais mon baluchon et je disparais pour toujours. Je le jure. 1, 2, 3, 4, 5. Je sais bien qu'elle m'aime pas. 6, 7, 8, 9. Si je n'existais pas, elle pourrait sortir, s'amuser, se remarier peut-être. 10, 11, 12, 13. L'autre jour, j'ai entendu ce qu'elle disait à sa copine Annie. J'ai beaucoup de soucis avec lui. Voilà ce qu'elle a dit. 14, 15, 16. Ça fait des mois qu'elle ne m'a pas embrassé. 17, 18. Cette nuit, elle l'a pleuré. 19. 19. 19. Maman. Maman. 19. Mais qu'est-ce que tu fais là? File te coucher plus vite que ça ou je te fiche une claque. Il était temps. Merci, maman.
Encore des histoires pressées de Bernard Friot. Je vais mourir. Demain matin, juste après le petit déjeuner, quand papa et maman seront partis, au moment d'aller à l'école. C'est la seule solution. Je n'ai pas fait ma rédaction. J'ai déjà une semaine de retard. Le prof m'a dit que si je ne lui rendais pas mon devoir demain, j'aurais 2 heures de colle. Et il m'enverra chez le directeur. Et le directeur convoquera mes parents. Et il leur dira pour le 0 en maths et pour la signature que j'ai imitée sur le carnet de notes. Alors je n'ai pas le choix. Je vais mourir. Ils ne pourront plus rien me faire après. Ils seront bien embêtés. Ils diront « c'est notre faute ». Et ils pleureront. J'espère que ça ne fait pas mal, la mort. Ça doit être ennuyant quand même. On ne bouge pas, on ne fait rien, on trouve le temps long. Mais ça m'est égal. C'est toujours mieux que ce qui m'attend à la maison si... J'espère aussi que ce n'est pas trop froid, la mort. Parce qu'il ne faudrait pas que je tombe malade. Mercredi, j'ai un match de football. Et sans moi dans les buts, franchement, je ne vois pas comment les copains pourront se débrouiller.
Encore des histoires pressées de Bernard Friot. Des fois, je dis... Mon père, il voyage. Il est capitaine sur un pétrolier géant de 200 mètres de long. Et il a fait 36 fois le tour du monde. Quand j'aurai 15 ans, je partirai avec lui. Et je prendrai mon tour de quart la nuit dans le poste de navigation. Des fois aussi, je dis, mon père, il est agent secret. Mais je n'ai pas le droit de vous le dire. Il pourchasse les terroristes à travers le monde entier. Et il parle directement avec le président. Tous les deux, on a un code secret pour communiquer. Ou bien ça dépend. Je dis, mon père, il est mort. Il était guide de haute montagne. Il s'est sacrifié pour sauver un jeune garçon qui était tombé dans une crevasse. Il a réussi à le remonter à la surface, mais lui, il est mort. C'est un héros. Il a eu une médaille. On l'a épinglé sur son cercueil. J'ai pleuré à ce moment-là. Mais parfois, plutôt, je dis... Mon père, il est en prison. C'était le chef d'une bande, il cambriolait des banques. Mais il redonnait presque tout l'argent aux pauvres. Tu sais, comme Robin des Bois. Et il n'a jamais tué personne. Il a été trahi. C'est pour ça qu'on l'a pris. Mais il s'évadera bientôt. Tu peux être sûr, je le connais, mon père. Une fois même, j'ai dit « Mon père, c'est quelqu'un d'important. De très haut placé, très très haut. » C'est même lui l'homme le plus important de France, si vous voyez ce que je veux dire. Mais je ne peux pas en dire plus. Vous comprenez, c'est un secret d'État. Et puis, il est déjà marié avec une autre femme. Alors ma mère et moi, on le voit souvent, mais en cachette. Parce que si ça se savait, ça ferait toute une affaire. Et puis, souvent, je ne dis rien. Parce que, mon père, je ne sais même pas qui c'est. Mais ça, quand même, je ne vais pas le dire.